88.4 sur Radio Galère. Me voilà parti ce soir pour un grand voyage. Un grand voyage vers le pays du soleil levant. Un grand voyage vers un grand pays. Le plus grand des pays, la Chine. Alors pourquoi la Chine ? Parce que vient de naître le 1,333,333,333e enfant, donc spécial dédicace de Hind de Chine.
Monsieur a des fonds dans les jambes, monsieur rêve, banque de pillage. Monsieur pense que les poulets sont devenus une pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.
La Chine, avec une histoire longue, pas très compliquée, se résume à des dynasties. En veux-tu, en voilà pendant 5000 ans. Alors attention, retenez bien, c'est parti. Les Zhang, les Zhou, les Qin, les Han, les Tang, les Song, les Sui, les Kan, les Yuan, les Ming et les Qing. Période durant laquelle ils inventèrent notamment la boussole, le papier, l'imprimerie et le billet de banque, ça va avec. Et bien sûr, après ça, la poudre à canon et les pâtes alimentaires. Ainsi la boucle est bouclée. Donc près de 5000 ans, ils inventèrent Mao pour ranger tout ce bordel. Construisant cette Chine à 99,6% populaire et 0,4% communiste, introduisant dans le monde le péril jaune qui fit trembler les pays les plus riches. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Est-elle à présent ce grand moteur capitaliste d'une nouvelle dynastie ? Où est-elle le monstre communiste qui, tel le cheval de Troie, s'infiltre à l'intérieur pour abattre l'idéal démocratie ? Où est-elle au bord de l'implosion, au bord de la révolte, de la révolution, et cette fois-ci au moins à 99,6% communiste ? Alors dans le plus grand atelier du monde, il paraît que ça gronde. Attention, et pensons à l'adage confucéen. Les Chinois est petit pour faire croire qu'il est loin. Mais il est là.
L'opération commencera dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici.
Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.
Quelle farce. Pourquoi ne pas nous mettre chacun dans une cellule jusqu'à ce que nous ayons avoué vous en finiriez une bonne fois pour toutes ?
La société qui est bien foutue. Je mets des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
C'est ça.
Un père cuisinier qui a
les pare-balles. Boucaux de printemps, planté dans le carton flottant. Et tâché maison à la sous du dragon. Il est mince en eau, puis au petit oignon. Monte une mitraillette aux pompes religieux. Et les deux baguettes qui sont plantées dans les yeux. Une tête coupée sur un bol de riz. Tout chinois santé et ça garde le trip. Et de la haussien, on se peut que ça ait détaillé. Fils de malaisien à l'assaut de Shanghai. Vouloir manger gâteau coco et gluant. Vouloir casser tête de coco méchant. Loi du silence, le tyro, le Shaolin. Et en reprise mangeant, on des sourires de la chaîne.
Au cours du premier trimestre 2009, 58 000 incidents de masse ont, selon le Parti communiste chinois, perturbé l'harmonie de la société chinoise. Bigre, 58 000 grèves, sauvages puisqu'interdites. Manifestations, sauvages également. Blocage de voies, affrontements avec les flics, occupations et incendies de bâtiments publics. Saccage d'usines, lynchage de cadres et de patrons. Émeutes, etc., etc. Des chiffres qui ne prennent pas en compte les pétitions, sit-in et autres formes plus modérées dont usent abondamment les protestataires qui font face, rappelons-le, à une dictature particulièrement sévère. Des chiffres qui connaissent une augmentation remarquable depuis quelques années. Alors, discipliné, la main-d'œuvre de l'atelier du monde.
Tout d'abord, brossons à gros traits le paysage chinois. Depuis la mort de Mao en 76, on peut dire que le pouvoir central de Pékin n'a fait que promouvoir une longue série de réformes visant à intégrer pleinement le capitalisme d'État chinois dans la dynamique mondiale du capital. Aujourd'hui, le capital en Chine s'organise autour d'un secteur public en démantèlement depuis les années 80, mais pas moribond. Et, pour le secteur privé, autour d'entreprises occidentales et de leurs sous-traitants chinois, centré notamment sur les zones côtières. Il est à noter que le secteur public comprend aussi bien les services et les banques que l'industrie. Mais surtout, le capital mondial en Chine se développe sur le dos de 400 millions au moins de prolétaires, pour une population active d'environ 800 millions de personnes. Parmi ceux-ci, les quelques 150-200 millions de travailleurs migrants, la plupart sans papier, les Mingong.
On appelle travailleurs migrants les prolétaires issus d'exode rural. Le plus souvent, ces ruraux ne disposent pas d'un permis de résidence, ce qu'on appelle un hukou urbain. De façon générale, les hukou ruraux représentent 57% de la population, selon des chiffres de 2005, contre 43% pour les hukou urbains. Dans leur grande masse, les travailleurs migrants n'ont qu'un hukou rural. Ils doivent donc être considérés comme des sans-papiers de l'intérieur, et sont à ce titre exploitables comme les immigrés dans d'autres pays.
Les Mingong, comme tous les sans-papiers du monde, forment une main-d'œuvre idéale. Enfin, plus exactement, formeraient, si leurs conditions d'exploitation ne les poussaient pas à se révolter de plus en plus. Ces révoltes font écho aux récentes mutineries dans les centres de rétention et autres camps en Europe. Mobilisations énormes de latinos illégaux aux États-Unis en 2006, etc. L'économie a besoin de fabriquer et conserver une telle catégorie de travailleurs, dont la condition d'expulsabilité est particulièrement adaptée aux besoins des employeurs. Évidemment. Dans certains secteurs, il est en effet plus pratique de délocaliser la main-d'œuvre que les entreprises. Le fait qu'en Chine, ce sont des Chinois qui forment cette masse laborieuse indique que la question des migrations et des papiers est peut-être plus une question de travail, c'est-à-dire d'exploitation, que de frontières, c'est-à-dire d'État. Les Mingong forment une part importante du prolétariat révolté, dont la remarquable combativité peut surprendre par ici. Parmi les nombreuses formes que peuvent prendre ces révoltes, les ouvriers chinois ont régulièrement la bonne idée de sortir des usines pour manifester leur colère et rencontrer dans la rue de précieux complices. L'enjeu du pouvoir local est alors fréquemment d'essayer de les en empêcher, ce qui entraîne des affrontements récurrents avec les keufs. Le déploiement policier augmente souvent le niveau de conflictualité. Une fois parvenus à déborder les premières rangées de forces de l'ordre, les manifestants dirigent leur rage contre les bâtiments officiels, caillassage, occupation, incendie. On peut imaginer que pour l'État, une alternative serait l'instauration d'une relative liberté syndicale, envisageable dans un possible processus de démocratisation. Ceci permettrait la mise en place de nouvelles structures de modération, de médiation et de contrôle des travailleurs, et rendrait la contention éthiquement plus acceptable pour les consommateurs occidentaux que la matraque ou le char. Une méthode particulièrement efficace qui a fait ses preuves à travers le monde, mais qui ne semble pas, pour l'instant, séduire les dirigeants chinois.
Par le jeu de la lutte des classes, l'atelier du monde se déplace et se réorganise continuellement. Panasonic, par exemple, transfère aujourd'hui ses usines de Pékin vers le Guangdong pour baisser ses coûts. En 2008, c'était Adidas qui se plaignait des salaires trop élevés en Chine. Parions que la résistance des prolos n'y est pas étrangère, et annonçait la possible délocalisation de ses usines vers l'Inde, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, l'ex-URSS ou l'Europe de l'Est. La relocalisation incessante des lieux de production s'accompagne inévitablement d'un redéploiement géographique permanent de la combativité ouvrière.
Le capital, ayant toujours besoin d'augmenter ses profits, doit être en permanence à l'offensive. L'intensification des résistances en Chine et ailleurs conforte sa tendance à renforcer l'exploitation en Occident, réforme des retraites, allongement du temps de travail, flexibilité, etc. L'Occident est aussi la produite la plus-value. Car bien qu'on nous parle sans cesse en France, par exemple, de fermeture et de délocalisation d'usines, les ouvriers sont encore plus de 6 millions dans l'Hexagone, presque autant que dans les années 60, un quart de la population active. Et les salariés français détiennent le record mondial de productivité. Les rapports entre travailleurs asiatiques et occidentaux sont plus étroits qu'on pourrait le croire. Le faible coût des produits que les premiers fabriquent et que les seconds consomment de manière croissante permet en Occident de tirer les salaires vers le bas, de diminuer le coût de la reproduction de la force de travail. Or, si les luttes des ouvriers chinois entraînent une hausse de leurs salaires, le prix des biens qu'ils produisent augmenteront également. Alors, le problème du pouvoir d'achat, en fait des salaires, risque de se poser encore plus sévèrement en Occident. La Chine étant le premier exportateur mondial de téléphones portables, de cartes mères, d'appareils photos, d'aspirines, de vêtements pour bébés, de chaussures, de jouets, de briquets, etc. On peut imaginer que cela s'accompagnera à terme, en réponse, d'une combativité croissante. Les prolos occidentaux, avec ou sans travail, ayant de moins en moins à perdre. On le constate d'ores et déjà. Bien que patrons et gouvernants brandissent la menace chinoise pour faire pression, les travailleurs occidentaux ne sont pas, eux non plus, aussi soumis qu'on voudrait nous le faire croire. En France, l'État reconnaît d'ailleurs que depuis plusieurs années, la conflictualité du travail est devenue plus intense et que le nombre de grèves est en hausse. Les divers outils de pacification devenant de moins en moins opérants, on peut s'attendre à ce que la répression s'intensifie encore.
L'harmonie sociale n'existe pas plus en France qu'en Chine ou ailleurs. La guerre sociale est internationale et tout laisse à penser qu'elle n'est pas près de s'apaiser. Au contraire. D'ailleurs, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous pris dans cet antagonisme quotidien et, quels que soient nos moyens et nos perspectives, plus ou moins activement, nous y prenons part.
Ce texte est extrait d'une revue qui vient de paraître, qui s'appelle Incident de classe en Chine. Pour les contacter, vous pouvez écrire à nousvoulonstout@gmail.com.
D'ailleurs, cette revue est inspirée d'un livre de Bruno Astarian, Lutte des classes dans la Chine des réformes, qui est paru en 2009 et dont nous vous proposons un interview tout de suite.
Donc, on a par la réforme de l'agriculture et la tolérance, disons, de l'exode rural, par le licenciement d'une masse très importante de salariés du secteur public, on a mis sur le pavé du capitalisme mondial quelque chose comme 200-250 millions de prolétaires disponibles. Donc, c'est une masse vraiment très, très importante. Par rapport à ce chiffre, on peut évaluer l'importance de ce chiffre en sachant que les entreprises étrangères en Chine emploient au maximum 14 ou 15 millions de salariés. Donc, une très petite partie de cette masse. Mais toute cette masse de travailleurs, ou une grande, grande part de ces travailleurs, produisent de la plus-value pour le capital occidental. Ça leur parvient, pas directement, mais par les circuits de la sous-traitance et les systèmes que c'est, je suppose que vous connaissez, que les grandes marques occidentales, par exemple, les fabricants de godasses, etc., vont en Chine, font fabriquer des chaussures à des prix de revient dérisoires et viennent les vendre ici à des prix très chers. Et dans ces systèmes de prix, il y a des transferts de valeur qui se font du prolétariat chinois vers le capital multinational comme ces grandes boîtes que j'ai citées. Les réformes ont donc fait passer le salariat en Chine d'une situation qui n'était pas du tout idyllique, hein, pas du tout sans conflit, mais a fait passer d'une situation qui était plus ou moins gérée par le pouvoir à une situation de conflit ouvert et qui sont arrivés, enfin dont l'information, au moins en partie, est arrivée jusqu'en Occident. Il y a eu, je continue selon ma dichotomie, il y a eu des luttes spécifiques des ouvriers, des entreprises publiques restructurées, et puis il y a eu des luttes spécifiques qui sont apparues au début des années 2000 dans le secteur des travailleurs migrants. On peut estimer que ça apparaît sur l'écran radar des médias, c'est-à-dire les sources qu'on a, hein, à peu près, quand on est quelqu'un comme moi, quoi, à partir de 97. Là, il y a eu des luttes dans des villes qui étaient spécialisées, des villes minières ou dans des régions pétrolières. Il y a eu des luttes qui étaient très massives, presque insurrectionnelles, mais qui ne sont jamais arrivées à ébranler la mécanique restructuratrice. Et parce qu'il faut voir que même quand on a eu, dans une ville pétrolière du nord de la Chine, par exemple, on a une insurrection, 50 000 personnes qui essayent de remettre en cause la direction du parti sur la ville et le travail dans la ville. C'est de la manière par rapport aux masses de salariés que emploient les entreprises publiques en Chine. Je peux vous citer le cas des ouvriers du pétrole qui ont été floués dans leur licenciement, la restructuration des entreprises pétrolières toujours dans le nord de la Chine a amené la direction à déclarer qu'elle était en faillite et que donc elle ne pouvait pas payer plus que 3 000, une certaine somme d'indemnité. Et puis, cette somme ayant été payée, les gens étant partis du boulot, comme par hasard, la boîte a repris, les cadres se sont octroyés des primes extraordinaires pour avoir réussi à cette restructuration. Alors, à ce moment-là, les salariés, dont beaucoup étaient licenciés, mais encore dans la Danway. Ça, c'est un statut de chômage très particulier, qui est un espèce de chômage technique, qui s'appelle en chinois Xiagang. On fait encore partie de la Danway, mais on a plus de boulot. Alors ça donne évidemment un avantage de survie, hein, puisque on a encore certains éléments de protection sociale. Ces salariés se sont révoltés parce que la boîte qui avait dit qu'elle était en faillite en fait marchait et ont essayé de se faire rembaucher. Les cadres sont allés jusqu'à Pékin en disant il faut nous réembaucher. Ils ont obtenu d'être réembauchés. Et puis les ouvriers ont essayé de faire la même chose, mais n'ont pas obtenu. Et puis finalement, donc c'est une situation qui a bouillonné pendant des semaines comme ça, avec des manifs, des pétitions. Et puis finalement, les gens ont vu leurs députés, ils l'ont vu à la télé dire qu'il n'y avait pas de chômeurs dans sa circonscription. Alors ça a fait péter un câble à tout le monde. Ça a donné des émeutes. Les gens sont sortis de partout et il s'est mis à y avoir une solidarité avec d'autres entreprises que celles du pétrole. Et ça, c'est un signe très net dans ces conflits-là, d'après ce que j'en ai vu en tout cas, que dès qu'il y a une solidarité inter-entreprise, aussitôt la répression est très ferme et on ne discute plus. Et on essaye, enfin le gouvernement a toujours ces deux moyens d'acheter les gens par des promesses et de les emprisonner en même temps. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans ces conflits, il s'est formé dans un autre aussi que je vois là, qui était dans un centre métallurgique également du nord de la Chine. Il s'est formé dans ces luttes, il s'est formé des comités syndicaux ou des comités inter-entreprises qui ont eu une certaine notoriété et dont les meneurs ont été réprimés absolument très très fortement. Hein. Pour participer à un comité de grève, vous prenez 3 ans ou 4 ans de prison comme rien. Ça, c'est une politique vraiment systématique, encore maintenant, du gouvernement, mais qui donne lieu à débat, et peut-être on en parlera tout à l'heure à propos de la question syndicale. Ces luttes, c'était les luttes des gens qui étaient laissés pour compte de la restructuration. Elles durent encore, hein. Il y a encore des gens qui ont été libérés, et qui ont été libérés, pardon, à lapsus affreux, qui ont été licenciés. Il y a 10 ans, ils font encore des pétitions. Mais en même temps, dans les usines restructurées, évidemment, il y a aussi des conflits, puisque la vie est toujours aussi difficile et même plus qu'avant la restructuration. C'est un point qui a donné lieu à débat, par exemple, avec la revue Aufheben, que vous connaissez peut-être, parce qu'ils considéraient que dans le secteur des entreprises d'État, il n'y avait que des gens d'arrière-garde et que c'était donc d'un intérêt secondaire. En fait, il y avait aussi des luttes d'avant-garde, c'est-à-dire des luttes offensives, des luttes de travail ordinaires, comme des luttes pour les conditions de travail dans des mines, où là j'ai noté le cas d'une usine textile où il y a eu 49 jours de grève parce que au moment du passage du statut de public à privé dans l'entreprise, le nouveau patron privé a promis de rien changer. Évidemment, il a changé, il a raccourci les contrats de travail, il a augmenté les périodes d'essai, il a baissé les salaires. Donc, les ouvrières et les ouvriers se sont mis en grève et pendant cette grève de 42 jours, ont tenté de monter une organisation syndicale. Il y a un texte, évidemment, le droit syndical est très bien dessiné, très bien écrit en Chine. Et donc, en appliquant la loi, étape par étape, ils ont fait leur syndicat et ça a donné lieu à leur section syndicale, ça a donné lieu à une réunion très forte, parce que il existe un syndicat en Chine, la Fédération Nationale des Syndicats Chinois, qui a un monopole complet sur la vie syndicale, qui a pas de vie d'ailleurs, et tout en respectant la loi pour former une section au sein de cette fédération, l'initiative a été considérée comme hors la loi et le patron syndical de la ville ou du secteur, je ne sais plus, a dit que c'était tout à fait inutile de former une section syndicale puisque cette usine était déjà syndicalisée, mais personne ne savait et il n'y avait pas eu d'élection. Donc il y avait un syndicat. Et ça, c'est un truc qui est courant en Chine. Un bon vient, discute avec le directeur et l'usine est syndicalisée. Parmi les grèves dans les emplois de la fonction publique, il y a aussi des grèves d'enseignants qui ont été assez massives. Et ça, elles ont un intérêt au sens où ce sont des grèves sectorielles qui ont fait tache d'huile. Et c'est relativement nouveau, disons depuis 2005 peut-être, d'avoir des grèves qui se répandent, qui arrivent à rompre l'isolement de l'entreprise ou du quartier, même du quartier, c'est peut-être rare. Et là, c'est en particulier en 2008 et 2009, je crois, il y a eu des enseignants, des instituteurs qui auraient dû, selon la loi, être payés comme des fonctionnaires de tel statut, mais qui l'étaient moins, leur paye était versée par les autorités municipales qui ne respectaient pas la loi nationale. Et donc, il y a eu une vague de grève qui s'est répandue dans beaucoup de villes par des canaux que on sait pas, mais par des canaux d'information normaux en Chine, c'est-à-dire Internet et le téléphone. Et ces grèves se sont résolues au cas par cas, des fois bien, des fois mal, dans les différentes municipalités. Il y a eu la même chose, mais ça, c'est pas dans le secteur public, le même type de vague de grève pour les chauffeurs de taxi. Alors, les chauffeurs de taxi qui sont des salariés. Enfin, c'est un peu comme en France, ils louent leur bagnole et puis ils doivent payer des tas de choses à la compagnie de taxi. Ils se sont mis en grève contre les entreprises de taxi et ça s'est répandu dans une grande partie du centre de la Chine de façon systématique et assez violente. Et là aussi, c'est pareil, ça a été résolu au cas par cas, des fois dans le bon sens, des fois dans le mauvais. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est que c'était ces propagations de grèves qui sont en fait assez rares dans tous les conflits sociaux qu'on a pu voir depuis le début des réformes. J'ai conscience que je suis trop long, mais je veux vite finir sur les conflits qui ont eu lieu dans le secteur des travailleurs migrants. Alors là, les migrations, là, enfin la formation de ce secteur s'est développée surtout à partir du début des années 90. Les conditions d'exploitation, comme je vous l'ai dit, étaient terribles, et donc forcément, il y a eu tout de suite, c'est pas possible autrement, il y a tout de suite eu des conflits sociaux sur des conditions de paye, sur l'application des règlements, sur la qualité des dortoirs, les problèmes de cantine, c'est un problème qui arrive assez souvent dans la presse qu'on peut lire sur ces cas-là. Comme dans les autres cas, les grèves des ouvriers migrants sont pas préparées, sont pas organisées. Tout d'un coup, ça pète sur un détail, alors que la tension s'accumule depuis des années. Et des fois, même assez fréquemment, c'est assez violent, c'est-à-dire qu'il y a des destructions de machines, de voitures, des choses comme ça. Et pareil, il y a des tentatives de formation de syndicats. J'ai noté quelques exemples, il y en a d'autres dans le bouquin, qui sont intéressants parce que, comme je vous l'ai dit, ces entreprises sont très fréquemment des sous-traitants des grandes marques internationales. Alors, par exemple, pour les consommateurs occidentaux, il est important de savoir que les chaussures de sport qu'on achète n'ont pas été fabriquées dans des conditions trop dégueulasses, parce que sinon ça fait mal aux pieds. Donc les donneurs d'ordre demandent à leurs sous-traitants d'humaniser un minimum et de pouvoir avoir un rapport sur le fait que les conditions de travail sont plutôt correctes dans les entreprises. Alors par exemple, je cite le cas de la Stella Shoe Factory, qui est dans le delta de la rivière des Perles, où les multinationales ont demandé une réduction des heures supplémentaires, parce que le régime des heures supplémentaires est faramineux. Hein. C'est-à-dire les salaires sont calculés de telle façon que c'est impossible de se reproduire, de vivre sans travailler au lieu de 8 heures, 12 heures. C'est fait pour ça, plus les amendes, plus tous les systèmes, plus les prélèvements, parce que quand vous êtes dans un dortoir, le patron prend évidemment la valeur du dortoir et de la cantine. Et tout ça est fait pour que les heures supplémentaires soient multipliées. Couramment, les travailleurs migrants travaillent 7 jours sur 7, avec un dimanche par mois. 7 jours sur 7, 12 heures. Donc ça fait des bonnes semaines. Donc, les donneurs d'ordre demandent la réduction des heures supplémentaires et Stella accepte et supprime le travail de plusieurs week-ends pour donner du temps libre à ses ouvriers. Mais il leur dit, je vous donne des week-ends, mais il faut que vous accélériez la production pour qu'à la fin du mois, la production soit la même. Et les gens disent oui, d'accord, pour avoir le week-end, les gens disent oui. Et donc, ça se passe comme ça, et à la fin du mois, les gens regardent leur paye, elle a baissé. Alors qu'ils ont fait le volume de production convenu. Et en fait, c'est une entourloupe, parce que quand on travaille le week-end, il y a une prime de surprime de week-end qui a disparu, puisque les heures qui ont été faites en plus pour compenser l'absence de week-end ont été faites pendant la semaine. Donc le patron s'y retrouvait quand même. Il avait la même production pour moins cher. Alors ça a provoqué une certaine crise de rage le soir de la paye dans les dortoirs, et apparemment ça criait pas mal. Il y a eu des violences, des voitures brûlées, des machines cassées. En tout cas, dans certaines usines, parce que ce groupe occupe plusieurs usines. Les usines où il y a eu des violences, c'est des usines où aucune représentation des travailleurs n'a pu se former. Tandis que dans deux usines du groupe où le même système était passé, il y avait eu un système de représentation des travailleurs qui avait permis une discussion. Ce qui est intéressant, c'est que l'information sur ce conflit sort d'un magazine chinois semi-officiel, qui donc ne donne pas la voix du parti, mais la voix quelque chose de toléré par le parti, et que le chroniqueur de ces deux conflits regrette l'absence de syndicats dans cette entreprise, que s'il y avait eu un syndicat, il n'y aurait pas eu de violence, le problème aurait été réglé pacifiquement. Et donc ça, c'est une voix presque dissidente en Chine, mais qu'on entend un peu plus souvent qu'avant. Je veux encore signaler un cas dans une zone économique spéciale, c'est-à-dire une zone enfermée où il y a des milliers d'entreprises internationales et des dizaines de milliers de travailleurs, qui est à Dalian, où il y a beaucoup d'entreprises japonaises. Il y a eu en 2005 une vague de grève qui est intéressante parce que, je la résume très, très brièvement, la mairie de Dalian est venue demander au patron japonais, en l'occurrence la boîte c'était Toshiba, de plafonner les heures supplémentaires parce que de nouveau le même problème. Alors le japonais a dit d'accord, et il a dit aux ouvriers qu'il fallait qu'ils augmentent leur productivité puisqu'il allait réduire leurs heures. Les chiffres sont un peu surprenants parce que Toshiba a demandé une augmentation de cadence de... Les gestes élémentaires devaient passer de 20 secondes à 14 secondes. C'est-à-dire c'est énorme, c'est vraiment une baisse de... Une accélération faramineuse. Je n'ai pas de façon de vérifier ces chiffres. Mais en tout cas, les gens ont refusé, et les travailleurs ont refusé. Ils ont dit, bon, bah, si vraiment on doit faire ça, on veut une augmentation de salaire. Et Toshiba a dit, banco, allez, d'accord. Ça, c'était fin juillet 2005. Et donc, la situation s'est stabilisée. Dans cette zone économique spéciale, où il y a tellement d'usines et tellement de monde, c'est comme une ville. Au lieu que le dortoir soit attenant à l'usine, les dortoirs ont été regroupés, comme les foyers de travailleurs, quoi, dans des endroits regroupés. Et donc, l'information selon laquelle les travailleurs avaient obtenu en 24 heures une augmentation de salaire pour une augmentation de productivité s'est répandue très vite. Et quand, dans d'autres usines où il fallait également réduire les heures supplémentaires, une demande d'augmentation de cadence du même type a été formulée par les patrons, les ouvriers ont réagi de la même façon et demandé des augmentations de salaire. Et ils les ont souvent obtenus. Ça, c'était donc, maintenant, on est en septembre. Par exemple, chez Canon, il y a 6000 ouvriers qui travaillaient. Ils ont demandé une augmentation de 200 yuan par mois. Enfin bon, les salaires sont de l'ordre de 800, 1000 maximum. Et ils ont demandé un truc que j'ai découvert en me documentant sur ce conflit. Dans cette usine de Canon, le contrat de travail que personne ne connaît, et qui est implicite presque, stipule qu'à 23 ans, toutes les femmes sont licenciées. C'est-à-dire que le patron ne veut pas de filles de plus de 23 ans. Après, elles sont fatiguées. Et ils ont mis ça dans la revendication. Une augmentation de salaire et puis la suppression de cette clause de licenciement automatique. Et ils ont obtenu une victoire partielle, donc un truc chèvre et chou. Mais 2 heures plus tard, qui vient ? Le maire. Et le maire dit à la direction de Canon, non, non, cette fin de grève, ce nouveau contrat de travail est illégal parce que la grève n'est pas légale en Chine. Et donc, c'est pas possible. Et donc, il faut que vous annuliez la clause. Alors, les gens de Canon ont dit, bon, d'accord. Et la mairie a envoyé dans les foyers des gens, des conseillers, pour faire signer aux travailleurs un papier comme quoi ils acceptaient de reprendre le travail dans les conditions antérieures. La mairie ne voulait pas d'augmentation de salaire pour ne pas décourager les investisseurs internationaux. Elle ne voulait pas que la réputation de la zone économique de Dalian ne soit ternie par une augmentation de salaire. Et les travailleurs ont refusé de signer cette espèce de papier qu'ils engageaient à renoncer. Et ils ont dormi dehors. Alors évidemment, ça, j'ai pas de détails, hein, mais ça a dû foutre un beau bazar. Et les gens étaient assez enthousiastes. Et la grève s'est répandue partout. Et finalement, il y avait 30 000 personnes en grève dans la zone. Ce qui est, je ne sais pas combien il y en a déjà en tout, mais ça commence à faire une certaine masse de gens. Finalement, donc ça c'était vers le 15 septembre. Finalement, ça s'est rentré dans l'ordre, c'est-à-dire que les directions japonaises ont fait des négociations, ont laissé un peu de gras, ont coupé sur les augmentations de salaire, c'est-à-dire là où vous demandez 200, les gens ont obtenu 100. Et la mairie a dédommagé les entreprises pour le surcoût lié à ce salaire. Pour bien sûr que les gens ne soient pas dégoûtés de venir investir là. Voilà une grève tout à fait typique de tous les enjeux qui sont autour des travailleurs migrants, où tout le monde est intéressé à leur exploitation, mais aussi à ce que les choses soient calmes. C'est-à-dire que pour les Japonais, payer une augmentation de 100 ou 250, pour eux, ça ne faisait pas vraiment de différence, visiblement, puisqu'ils ont obtenu gain de cause très vite. Si je devais faire une conclusion générale à cette présentation, ce serait pour expliquer rapidement la position du prolétariat chinois dans la reproduction mondiale des classes. Il faut faire un petit retour historique. Les réformes en Chine sont intervenues à un moment où l'économie chinoise était en crise manifeste par sa bureaucratie, mais aussi par la conjoncture générale de crise qui était dans le monde à ce moment-là. Et après bien des tergiversations entre bureaucrates, une option libérale a été choisie par Deng Xiaoping, on a mis Deng Xiaoping au pouvoir pour jouer une carte libérale, et ça a été le début de l'ouverture de la Chine au marché international. Au même moment, dans les années 60-70, en Occident, on assistait également à une crise et à un ralentissement économique. C'était la période de la crise du travail à la chaîne, de la révolte des OS, qui a donné lieu, de la part des patrons, à une riposte qui comportait notamment les délocalisations. Délocalisations d'abord à l'intérieur d'un pays, comme par exemple du nord au sud des États-Unis, et puis ensuite des délocalisations internationales. De sorte qu'il y a une espèce de convergence entre la crise en Chine et la crise du marché mondial dans les années 70, où ce qu'on appelle couramment la crise du Fordisme, qui est en fait une espèce de limite à l'extraction de la plus-value relative qui était rencontrée à ce moment-là en Europe, requérait une source de plus-value absolue. C'est-à-dire que en Europe et en Occident, on n'arrivait pas à imposer un allongement de la journée de travail et on cherchait des journées de travail plus longues ailleurs. Et on les a trouvées massivement en Chine. De sorte que la solution chinoise, ce que j'appelle à la fin de mon bouquin, la solution chinoise est une solution double. Solution à la crise bureaucratique qui était en Chine manifeste après la révolution culturelle, et solution à la crise du Fordisme, disons, pour dire les choses de façon très générale, qui était également manifeste par la révolte des OS en Occident. Cette double solution a marché, plus ou moins, pendant 25 ou 30 ans. Et maintenant, on a une nouvelle crise. Et ça, c'est intéressant parce que on va voir, pour l'instant, c'est un peu trop, on ne voit pas trop, mais dans la crise qui vient, on va voir ce que la solution chinoise a à proposer à la crise du capitalisme mondial. Et là, la Chine est vraiment prise dedans, directement.
Savez-vous ce que Napoléon disait à propos de la Chine?
Oui, je m'en souviens. Laissez la Chine dormir, car lorsqu'elle s'éveillera, le monde entier tremblera.
Que n'a-t-il pas dit, celui-là?
Entrez.
Alors, pour vous parler de stabilité, par exemple, c'est moi, je suis arrivé en 92. 92, un ouvrier se négociait aux alentours de mémoire de 60 euros. Bon.
Maintenant, il vous coûte combien, l'ouvrier?
Bah, un ouvrier non formé hein, coûte entre 90 et 110 euros. Bah, ça coûte de plus en plus cher, mais...
Non, mais un exemple aussi, parce que vous parliez de combien coûte un ouvrier ici. Ouais. Un ouvrier français, ça vaut combien d'ouvriers chinois?
Écoutez, je suis parti, ça fait 17 ans de France. À combien est l'ouvrier français aujourd'hui?
Disons 1100 euros, quoi.
Ben voilà, c'est 10 fois moins. Hein. Un ouvrier non qualifié, c'est 10 fois moins.
Il ne demande pas plus, l'ouvrier, à force, parce que le...
Non. Malheureusement, je veux dire, même s'il demande plus, on va dire que la force de la Chine, quelque part, c'est d'être capable de mettre 20 000 bonhommes demain matin sur un chantier. Bon, ça veut dire que tous ces gens qui viennent sur la bande côtière, et je vous rappelle que la bande côtière, c'est rien par rapport au reste, au réservoir humain qu'il y a dans le reste de la Chine.
Des régions comme le Henan où on est passé, où il y a 100 millions d'habitants.
Quoi. Oui, ou dans le Guangxi,
pauvre.
Ou dans le Sichuan, ou dans la montagne. Vous voyez, ça arrive sans arrêt en ville. Si vous allez dans les gares, vous allez voir ce flux migratoire infernal. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met un petit panneau feuille A4 sur le poteau d'entrée du parc européen et vous avez 200 ouvriers dans la journée. On trouve des ouvriers sans aucune difficulté. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des migrants. Hein. Donc vous en avez beaucoup parlé dans la presse et les migrants n'ont pas nécessairement les mêmes droits que les autres.
Ils n'ont pas droit, ils n'ont pas accès aux soins, ils n'ont pas accès à l'éducation.
Alors, dans certaines entreprises, je veux dire que dans les entreprises que je gère notamment et plus largement dans les entreprises françaises, on joue pas à ce genre de choses. Je veux dire, c'est pas Zola, on n'est pas des exploiteurs non plus. On est venu pour conquérir un marché, mais dans la dignité. Alors donc pas d'enfants et puis ben, payons des cotisations sociales aux employés. Alors c'est assez amusant parce que. Je suis pas non plus un mécène.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'à vous entendre, on a l'impression que vous êtes une ONG, là.
Ben, voilà, je vous explique. Je suis pas un mécène, parce que pour 100 balles de plus, enfin 10 euros, 20 euros de plus ou de moins, c'est une bêtise. Charge sociale, si on parle de Cirlan, 10% charge sociale pour l'employeur, 10% pour l'employé. Bon, si vous avez un salaire de...
Mais c'est quand même vachement moins qu'en France. Hein.
Ben, oui, forcément. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, les ouvriers chinois, si vous leur faites pas faire des heures supplémentaires, ils s'en vont. C'est eux-mêmes qui vous les réclament. Alors, quelque part, je voudrais pas être polémique, mais est-ce que on a le droit de dire aux gens, bah, arrêtez de travailler, non, vous gagnerez pas plus que ça. Bah, laissez-les bosser s'ils ont envie de bosser.
Pour résumer, en fait, ce qui se passe en Chine, pour vous et pour les autres entrepreneurs, c'est un modèle de capitalisme vertueux.
Le capitalisme est-il ou n'est-il pas vertueux? Je veux dire qu'aujourd'hui, nous, on respecte la loi, donc en ce sens, on est effectivement vertueux. Il n'y a pas de petits-enfants qui travaillent chez nous, donc dans ce sens, on est aussi vertueux. On essaye de travailler avec nos ouvriers et pas contre nos ouvriers, donc ça aussi, c'est vertueux. Mais on est aussi des entreprises capitalistiques à la conquête de la Chine, et ben, là aussi, il faut être vicieux, hein, de temps en temps, pour réussir dans le business, parce que non, le capitalisme, je veux dire aujourd'hui, il n'y a pas plus capitaliste qu'un Chinois. Hein. Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas vertueux, mais on sait faire du business proprement dans ce pays.
Janvier 2010, Long Yatun. Manifestation et blocage de travaux par des villageois qui refusent leur expropriation. La police pénètre dans le village pour arrêter 12 protestataires mais sont pris à partie par les habitants. 50 arrestations, 11 flics et une de leurs voitures endommagées, 12 villageois blessés, dont 5 par balle et peut-être un mort.
Le 14 janvier 2010, à Yangxiang, des villageois bloquent l'autoroute avec des troncs d'arbres. Une société veut s'emparer de leurs terres et envoie la nuit des gros bras pour détruire les récoltes et tabasser les paysans. Oh,
现在世界舆论当中有所谓血洗天安门死了多少多少人类这种舆论是不正确的。这是6月16号。
A coulé sur la place Tiananmen. Comment as-tu pu croire un seul instant à la langue de bois et de vipère de ceux qui te dirigent depuis trop longtemps? Perestroïka, modernisation, autant de mots creux avant la répression. Ça veut dire en chinois et ça veut dire qu'en Chine ça craint un maximum le drapeau rouge du crime. Dangereuse, alors il n'y aura pas ton nom dans ma chanson. La milice des mouchards pratique la délation. Une balle dans la nuque pour ta génération.
Rebelle anonyme, espoir de la Chine.
Seul sur un milliard, attention, v'là les chars. Ça veut dire en chinois et ça veut dire qu'en Chine ça craint un maximum le drapeau rouge du crime. Juin 89.
Pourquoi t'es pas resté couché avec ta meuf?
Il va bien falloir que tu te prépares, car après ce printemps de nulle part, tu vas connaître l'hiver tous les soirs.
Mais moi je te le dis car tu es un ami. T'as pas l'espoir, hey, t'as pas l'espoir.
Tu connaîtras des jours meilleurs.
T'as pas l'espoir, hey, t'as pas l'espoir.
Invoque les dieux en ta faveur.
T'as pas l'espoir, hey, t'as pas l'espoir.
Tu connaîtras des jours meilleurs.
T'as pas l'espoir, hey, t'as pas l'espoir.
Invoque les dieux en ta faveur. Sont plus les mêmes, car le sang a coulé sur la place Tiananmen. Comment as-tu pu croire un seul instant à la langue de bois et de vipère de ceux qui te dirigent depuis trop longtemps? Perestroïka, modernisation, autant de mots creux avant la répression. Ça veut dire en chinois et ça veut dire qu'en Chine ça craint un maximum le drapeau rouge du crime. Est dangereuse, alors il n'y aura pas ton nom dans ma chanson. La milice des mouchards pratique la délation. Une balle dans la nuque pour ta génération. Rebelle anonyme, espoir de la Chine. Seul sur un milliard, attention, v'là les chars. Ça veut dire en chinois et ça veut dire qu'en Chine ça craint un maximum le drapeau rouge du crime. Ça veut dire en chinois et ça veut dire qu'en Chine ça craint un maximum le drapeau rouge du crime.
Vous êtes des travailleurs, vous vous déplacez au fur et à mesure des chantiers, c'est ça?
C'est-à-dire, vous vous déplacez, à chaque fois qu'il y a un nouveau chantier, vous allez sur les nouveaux chantiers. Les femmes aussi travaillent sur le chantier.
Les hommes, ils travaillent dans le chantier et les femmes, ils travaillent dans les usines.
Vous travaillez dans une usine ? Tu fais de la confection ? Vous aussi ?
Elle
travaille ici sur le chantier ? Qu'est-ce que vous faites sur le chantier ?
Des petits boulots, par exemple, porter des briques pour les hommes.
C'est pas un petit boulot de porter des briques pour les hommes. Et toi qui travailles dans la confection, tu travailles combien d'heures par jour dans la confection ? 12 heures par jour.
La plupart des usines, on travaille 12 heures par
jour. Et qu'est-ce que tu couds comme vêtement ?
Je vérifie la qualité des vêtements.
Ah, tu travailles tous les jours ou tu as un jour de repos dans la semaine ?
Le dimanche, si je veux, j'ai envie de continuer à travailler, je travaille. Si je veux reposer, je peux me reposer.
D'accord, mais tu peux travailler plus pour gagner plus si tu veux. Et tu gagnes combien par mois ?
En moyenne, 1000 yuan par mois.
1000 yuan, 100 euros par mois.
Pas de yuan, renminbi.
Le 15 janvier 2010, à Suzhou, plusieurs milliers d'ouvriers de l'usine Wintech Corps, sous-traitant d'Apple, qui lui fournit les écrans tactiles d'iPhone, entre en grève à l'annonce de la suppression des primes de fin d'année. Ils détruisent les véhicules, endommagent les bâtiments et caillassent les flics, faisant une centaine de blessés. Ils dénoncent aussi l'emploi de produits toxiques dans le procès de fabrication, l'Exam, qui a causé la mort de plusieurs travailleurs.
Le même jour à Pizhou, dans le Jiangsu, 2000 personnes, soit presque tout le village, manifestent dans la ville et sont dispersées par la police anti-émeute. 50 blessés. La veille, un habitant de Hewan a été tué lorsqu'une centaine de gardes a tenté de s'emparer de forces d'exploitation agricole que les autorités veulent vendre pour y construire une usine chimique.
Alors, qu'est-ce que vous faites exactement comme travail ?
On
fait les gouttières.
Et combien on gagne quand on fait ce travail-là ?
C'est entre un peu plus de 1000 kuai et puis jusqu'à 2000 à peu près.
Entre 100 et 200 euros. Quoi.
Entre 100 et 200 euros. Et c'est bien payé ça ?
Pour droit. Non, c'est pas beaucoup.
Vous vivez dans les baraques là-bas ? Vous dormez dans les baraques ?
Ouais, c'est dans des dortoirs.
D'accord.
Ouais, c'est comme à l'armée.
Alors qu'est-ce que vous espérez ?
Ouais, bah bien sûr qu'on va faire fortune. Chacun.
Et toi, de quoi tu rêves ?
Ah,
bah moi j'ai envie de rentrer chez moi, voir ma femme et mes enfants.
Et ils sont loin ?
Ah, moi je viens du Renan.
Mais ça c'est loin le Renan.
Ouais, c'est vraiment loin.
Le 19 janvier 2010, à Wanghu, les villageois affrontent plus de 200 flics venus arrêter un habitant soupçonné de fabriquer des cocktails Molotov. 10 villageois et 2 flics blessés. Pour un projet de construction, les autorités locales veulent expulser 108 familles.
Le 26 janvier 2010, à Tongle, affrontement entre des villageois et 700 policiers. Ils tentent d'empêcher l'expropriation de leur ferme, que les autorités ont revendue 100 fois plus cher que le montant des indemnisations.
Les employés de Tonghua, une entreprise de métallurgie d'État de la province de Jilin, ont fait la fête vendredi. Cela après que les autorités aient accepté de stopper un rachat par une autre entreprise. Le rachat impliquait l'entreprise privée Jialong Steel. Jialong Steel voulait racheter une part de contrôle dans Tonghua. Et il prévoyait de licencier plus de 80% des ouvriers. Vendredi 24 juillet, des milliers d'ouvriers ont commencé à manifester aux portes de l'usine, avec des bannières et des slogans tels que « Hors de Tonghua ». Des manifestants se sont confrontés avec la police anti-émeute qui avait été appelée en renfort dans d'autres villes. La manifestation a atteint son paroxysme vendredi soir, lorsque le directeur de Jialong Steel, Chen Guojun, a parlé avec les représentants des ouvriers en colère. Chen a menacé de licencier la majorité de la main-d'œuvre de Tonghua. Les manifestants ont traîné Chen dehors et aux alentours de 19h, il a été battu à mort. Un employé de Tonghua nous a raconté dans une interview par téléphone que le nombre d'ouvriers et les membres de leur famille venus en soutien atteignait 30 à 40 000 personnes.
Les ouvriers sont tous venus, peut-être 70 à 80% des ouvriers sont venus.
Les policiers ne pouvaient pas contrôler la situation. Des ouvriers en colère ont détruit 3 véhicules de police. Mais les événements ont pris un tour inhabituel ce soir lorsque le gouvernement provincial de Jilin a annoncé qu'il n'autoriserait pas Jilong Steel à entrer dans le capital de Tonghua. Après que cette nouvelle ait été annoncée sur une chaîne de télévision locale, les manifestants ont tiré des feux d'artifice pour fêter cela. L'agence de presse AFP a rapporté que la police a ouvert l'enquête sur le meurtre de M. Chen. Mais au moins pour l'instant, les ouvriers chinois ont remporté une rare victoire dans un pays où, sans égard pour la loi, les autorités ont si souvent le dernier mot.
La colère n'a pas de frontières, pas plus que leur profit et leur manière. La révolte n'a pas de frontières. De l'Asie à l'Amérique, de l'Europe à l'Afrique, nous brûlerons toutes les bannières. L'insurrection n'a pas de frontières, pas plus que leur guerre, pas plus que la misère. La révolution n'aura pas de frontières. Partout ce sera la guerre pour en finir avec la misère. Ni chaînes ni frontières.
Et d'ailleurs, sur le fait que la révolte n'a pas de frontières, je voulais juste revenir sur une petite grève qui se passe actuellement à
près
3 Monoprix.
Vous.
Près de chez vous, c'est arrivé près de chez vous. Donc le Monoprix du Prado, celui de Castellane et celui de la Canebière. Et il y a des piquets de grève qui sont tenus la journée et la nuit. Et tout soutien sera le bienvenu.
la nuit comme le jour. Veiller sur ce qui se passe là-bas. Passer à Monoprix. Et on se revoit dans 2 semaines pour une émission sur la Grèce, si tout se passe bien. En attendant, gardez la haine contre toutes les chaînes.